Jules Girardin, Petit conte alsacien. Le récit interrompu. La classe du soir venait de finir, mais la pluie tombait à torrents, et à chaque coup de tonnerre, l'averse redoublait de violence. Monsieur Jacobus, le maître d'école, avait l'air inquiet. Il se pinçait le menton en regardant à travers les vitres, et sa figure disait clairement: Je ne puis pas les laisser partir par un temps comme celui-là. Et Dieu sait quelles sottises ils vont faire, enfermés ici. Keller! S'écria-t-il d'une voix terrible, en frappant sur sa chaise, que je te vois encore grimper sur les épaules de Binzer. Tous à vos places. Je vais vous raconter une histoire. Il y eut un ah, prolongé, chacun reprit sa place, et tous les écoliers se tinrent tranquilles, comme des souris. Et cependant, les garçons de Dahlheim sont renommés pour leur turbulence. Dans l'Allemagne du Sud, dit monsieur Jacobus, il y a une petite principauté que nous appellerons la principauté de Krauthausen. Le climat y est doux, la terre fertile, et les gens qui l'habitent sont les meilleurs gens du monde, gais, avenants, et point du tout enclins à la défiance. Parmi ces braves gens, on citait la mère Franz, comme la meilleure des meilleures, dans un pays où toutes les femmes sont bonnes. Elle gagnait honnêtement sa vie à vendre au marché les fleurs de son parterre, les légumes de son marais, les fruits de son verger, les œufs de ses poules, et par-ci par-là quelques poulets bien gras ou quelques canards bien dodus. Donc elle vivait à son aise, et même la part des pauvres une fois prélevée, elle pouvait mettre de côté, bon an, mal an, pour les besoins à venir et pour l'établissement de ses fils et de ses filles, un nombre très respectable de florins. Il paraît que dans l'Allemagne du Nord, ils ne sont pas si riches que dans l'Allemagne du Sud, car on voyait arriver fréquemment à Krauthausen des émigrants du Nord en piteux équipage. Les gens du pays avaient pitié de ces émigrants, et en l'honneur de notre Seigneur, qui est mort pour tous les hommes, ils les regardaient comme des frères, leur faisaient la charité selon leurs moyens, et les employaient aux travaux de la ville et de la campagne. Les gens du Nord se montraient humbles et doux et parlaient beaucoup de leur reconnaissance. Ici, Karl Miller dit à demi-voix. C'est comme les « Retiens ta langue, Karl Miller, dit monsieur Jacobus en lui coupant brusquement la parole. Si tu as des comparaisons à faire, tu les feras plus tard. Ce n'est pas le moment. » Le plus humble et le plus doux de ces émigrants était un petit ramoneur qu'on appelait Fritz. Il était si maigre que cela vous faisait trembler les paupières de pitié, rien que de le regarder. La mère Franz, le voyant si chétif, le compara dans le fond de son âme à ses propres enfants, qui étaient bien vêtus et bien nourris, et se dit « Non, cela n'est pas juste. Non, cela n'est pas chrétien. » Elle prit alors une grande prise de tabac pour s'éclaircir les idées, affermit ses lunettes sur son nez pour y voir plus clair, et regarda le pauvre petit ramoneur. Assis sur ses talons, le dos appuyé contre une borne, il dévorait à belles dents un vieux trognon de pomme. « Psst ! Hé, petit » cria-t-elle. Le ramoneur fut aussitôt sur ses pieds, accourut où on l'appelait, et ôtant poliment son bonnet, dit « Bonne madame, je crois que vous m'avez appelée. » Sa figure était douce comme celle d'un mouton, et humble comme celle d'un pauvre honteux. Pourtant, la mère Franz aperçut dans l'œil du ramoneur quelque chose qui n'était ni de la douceur, ni de l'humilité. Cela ressemblait à de la malice, peut-être même à de la ruse. Ici, Miller se mit à rire, et dit à demi-voix qu'il connaît des gens tout pareils au ramoneur. Quelques camarades disent « Moi aussi j'en connais !» se frotte les mains et regarde M. Jacobus qui répond « C'est bien possible !» et continue son histoire. Se dit la mère Franz. Qu'est-ce que c'est qu'un œil pareil? Bon, reprit-elle, en se parlant à elle-même. Me voilà bien avec mes habitudes de défiance. Notez qu'elle ne se défiait de personne, et qu'elle n'aurait pas médit d'une mouche bleue, et cependant la mouche bleue est la plus détestable de toutes les mouches. Mange-moi cela, dit-elle au ramoneur. Cela, c'était une bonne écuelle de soupe bien chaude. Il ne se le fit pas dire deux fois, et je vous prie de croire que c'était un vrai passe-temps de lui voir nettoyer l'écuelle. « Est-ce que c'est bon ? » demanda la mère Franz pour voir ce qu'il dirait. Le ramoneur fit des yeux tout blancs à force d'en tirer les prunelles en haut vers le ciel et dit que c'était une soupe bénie. Le mot béni déplut à la mère Franz, étant appliqué à une soupe. Il n'y a que vous, bonne madame, pour faire des soupes comme cela. Qu'en savait-il, je vous le demande, ce méchant flagorneur? La mère Franz, flattée de son compliment, tout grossier qu'il était, lui donna pour son dessert une belle pomme rouge. À l'heure de la soupe, la mère Franz voyait toujours arriver son ramoneur. Elle prenait plaisir, en bonne chrétienne qu'elle était, à voir les joues de Fritz s'arrondir. Il est probable qu'en s'arrondissant, elle devenait plus rose. Mais allez donc vous en assurer sous une triple couche de suie. Est-ce que tu ne pourrais pas te laver la figure et les mains, au moins le dimanche? Lui dit un jour la mère Franz. Bah, répondit-il. Cela reviendrait tout de suite, ce n'est guère la peine. Cette réponse ne plut pas trop à la mère Franz, qui était la propreté même. Elle en conclut que le ramoneur avait été élevé par des parents peu soigneux. Car enfin, se disait-elle, être propre sur soi autant qu'on le peut, c'est se respecter soi-même et c'est aussi respecter les autres. Fritz devina sans doute sa pensée, car il lui dit. C'est bon pour vous, madame Franz, d'être propre et reluisante, comme un florin neuf. Vous êtes si riche, vous avez un métier si propre et si agréable. Et il se répandit en éloges sur le beau bonnet blanc de madame Franz, sur ses lunettes d'argent, aussi brillantes et aussi larges que celles d'un docteur, sur le châle à carreaux, sur la montre d'argent, sur la montre surtout, dont il ne pouvait détacher ses regards, toutes les fois que la mère Franz la tirait de sa cachette mystérieuse pour voir l'heure. Ici, toute la classe se mit à rire. Le long des bancs, on entendait faire allusion à des gens qui aimaient trop les pendules des autres. Monsieur Jacobus poursuivit son récit. « Laissons tout cela, » dit la brave femme en riant. « Tu me feras commettre le péché d'orgueil. Parlons d'autre chose. J'espère que tu es un bon chrétien. » Fritz prit un air de pieuse indignation et dit « Ah, madame Franz, pouvez-vous le demander ? Dans mon pays, nous sommes tous de bons chrétiens. » Et il marmotta tout bas, de façon à n'être point entendu. Meilleurs chrétiens que vous autres, qui allez à la messe et qui êtes tous des réprouvés. Un maître d'école du Nord, plein de suffisance, vaniteux, jaloux et haineux, avait appris à Fritz et à bien d'autres petits garçons que passer une certaine ligne, que l'on appelle frontière, et qu'il leur montrait de son doigt grossier sur la carte, le reste du monde était réprouvé. À droite, à gauche, ces petits garçons entendaient dire « Est-il juste que les élus meurent de faim pendant que les réprouvés se nourrissent de la graisse de la terre ?»« Non, cela n'est pas juste, c'est l'abomination de la désolation. » À force d'entendre ces paroles, les petits garçons se disaient que leur mission était évidemment de reprendre, par la force ou par la ruse, quelques-unes de ces bonnes choses dont les mécréants abusaient indignement. Au moment même où Fritz montrait une si pieuse indignation, il avait dans sa poche une pomme qu'il avait volée à l'étalage de la mère Franz. Un jour que la chaleur était grande, la mère Franz s'assoupit, les mains croisées, à l'ombre de son vaste parapluie. À l'heure de la soupe, Fritz déboucha d'une des petites rues qui conduisent au marché. Ce n'était plus le bon, l'humble Fritz de tous les jours. Il avait la démarche arrogante, les reins cambrés, la tête renversée en arrière, et quelque chose de faux, de méchant et d'insolent dans le regard. Il n'avait plus besoin de faire l'hypocrite. Il partait dans l'après-midi même pour retourner dans son pays. En arrivant près de la mère Franz, il eut un moment l'idée de lui rabattre son parapluie sur la tête, ou de renverser son étalage, afin de lui montrer comment les élus traitent les réprouvés quand ils n'ont plus besoin d'eux. Mais il se ravisa. L'odeur de la soupe avait changé toutes ses résolutions. « Mangeons d'abord la soupe, » dit-il avec une vilaine expression, en montrant le poing à l'innocente dormeuse. Il se jeta donc sur la soupe, et vida la marmite jusqu'au fond. Après quoi, il engloutit le plat de pommes de terre au lard. Il n'en pouvait plus, sa respiration était bruyante. Les yeux lui sortaient de la tête, mais il mangeait toujours. Par gourmandise d'abord, par désir de nuire ensuite. Toute la classe riait de cette peinture, qui rappelait aux garçons de Dahlheim l'invasion de 1870 et l'épouvantable gloutonnerie des envahisseurs. Monsieur Jacobus souriait aussi. Il se passa la main sur la bouche et continua. Quand Fritz fut repu jusqu'à en avoir des bourdonnements dans les oreilles, il se mit à regarder d'un œil tout brillant de convoitise le cordon de montre de la mère Franz. Quel souvenir à remporter au pays que cette montre, si Fritz avait pu, sans réveiller la mère Franz, l'extraire des profondeurs obscures où elle gisait en sécurité. Mais c'était une chose impossible, et Fritz en pleura presque de dépit. Pour se venger, il dévalisa l'étalage de la mère Franz et mit dans ses poches tout ce qu'elles purent contenir. Encore cette pomme, se dit-il, en saisissant une pomme vermeille, digne de paraître sur la table d'un conseiller aulique. Alors il mit le pouce de sa main gauche sur son nez et étendit ses autres doigts. Cette pantomime, chez toutes les nations civilisées, est un signe de souverain mépris. Avant de prendre la fuite, il poussa un cri qui fit tressauter la mère Franz, au point qu'elle bondit presque hors de son fauteuil. Elle fut d'abord si abasourdie de ce qu'elle voyait qu'elle se frotta les yeux à deux reprises. « Eh oui. Oui, eh bien, oui, c'est moi, » dit insolemment Franz. « Tenez, voilà une grimace, et encore une autre. Que dites-vous de cela, vieille réprouvée ?» La mère Franz laissa tomber ses mains de désespoir. Tout ce qu'elle trouva à dire, ce fut « Oh Fritz, Dieu te punira de ton ingratitude. » Alors il leva la main, comme s'il voulait la frapper, mais sa main fut saisie au vol par une main plus puissante, qui la serra comme dans un étau. Il se retourna tout tremblant, car les méchants sont généralement des lâches. Il se trouva face à face avec Hermann, le fils aîné de la mère Franz. Les yeux d'Hermann étincelaient de colère. Il avait les narines ouvertes, les dents serrées. « Alors, dit M. Jacobus en s'interrompant, savez-vous ce qui arriva ?» Nous n'osions plus respirer, tant nous désirions savoir la fin de l'aventure. La pluie avait cessé. On n'entendait que le bruit des gouttes d'eau qui tombaient des arbres à terre et le tonnerre qui roulait dans le lointain. Au moment même où M. Jacobus allait reprendre la parole, la classe fut illuminée par deux éclairs si épouvantables que presque tous mes camarades se cachèrent les yeux avec leurs mains. En même temps, on entendit tout près de l'école deux coups secs et un grand craquement. Binzer, qui était près de la fenêtre, s'écria. Le tonnerre est tombé sur le grand noyer de la cure. Tous les élèves voulurent voir les effets de la foudre. Il y eut une grande bousculade pour sortir. Tout le monde cherchait à passer à la fois. Monsieur Jacobus n'acheva pas son histoire, mais nous devinons tous que ce voleur de Fritz a dû être traité comme il le méritait, c'est-à-dire battu d'importance et forcé à restituer ce qu'il avait volé. Ainsi puissent être traités tous ceux qui se conduisent comme lui.